Bonjour à tous et bienvenue dans Les Humains et leur machine à son. Non. Ok. Les humains et leur machine à son. Subways of your mind. Prise 1 et j'espère la seule. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Humains et leur machine à son. Aujourd'hui, nous nous intéresserons non pas comme à notre habitude au rock progressif, mais cette fois-ci à un autre genre, la New Wave, au travers d'un morceau assez particulier dont je vais vous raconter l'histoire. Nous nous intéresserons à Subways of Your Mind de Fex. Donc, le morceau qui nous intéresse aujourd'hui, Subways of Your Mind, de Fex, est un morceau assez particulier, non pas pour son style ou par la grande innovation de ce morceau, mais plutôt par l'histoire qui l'entoure. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui pour vous aborder un genre tout à fait particulier, genre de la New Wave. Alors, qu'est-ce que la New Wave? À la fin des années 80, des années 70, le rock progressif qui a fait ses heures de gloire au cours des années 70 avec des groupes comme Pink Floyd ou King Crimson. King Crimson s'est d'ailleurs dissous à la fin des années 70, de même que Pink Floyd à cause des différends artistiques entre les différents membres. On pourra citer d'autres groupes aussi comme Genesis, etc., qui ont tous périclité à la fin des années 70. À la fin des années 70, le rock progressif va perdre sa place de choix dans l'industrie musicale et céder sa place à un genre tout à fait nouveau, le genre du punk rock. C'est un genre qui se développe à partir du garage rock. Alors le garage rock, c'est quoi? C'est un contre-courant au rock principal qui s'est développé dans les années 60. Le rock britannique dans les années 60, c'est surtout les Beatles, en figure de proue, on va dire. Et autour de ça, on va avoir d'autres groupes comme The Who, ou même les Rolling Stones, Outre-Atlantique, etc. Ce qui vont former le rock principal, le rock mainstream, on pourrait dire. Mais, en parallèle, il y a des musiciens qui ont des choses à dire, qui ont envie de s'exprimer à travers le rock, et qui ne peuvent pas signer à travers des grands labels, et qui du coup vont s'orienter vers un autre style d'enregistrement, des enregistrements plus bruts, en général fait maison, un peu amateur, et ce genre-là, c'est le garage rock, qui va plus tard donner naissance au punk rock, qui lui est plus contestataire. Le punk rock est associé à toute la mouvance punk de la fin des années 70, qui va avoir tout un climat contestataire, un climat de révolte contre l'autorité. Et ce genre-là, s'accompagne d'une mode vestimentaire que je pense vous connaissez assez bien. Mais c'est avant tout un mouvement qui va être assez musical. On va avoir des groupes qui vont se formés à cette époque comme Sex Pistols, pour citer le plus connu d'entre eux, qui vont contester vachement dans leur musique et vont apporter un côté très brutal à la musique rock. Le punk rock va prendre le dessus devant le rock progressif, qui va commencer doucement à décliner puis à complètement décliner, mais le punk ne va pas séduire tout le monde. À la fin des années 70, le côté très nihiliste, noir et sombre du punk, No Future, etc., va commencer à un petit peu gaver la jeunesse, et on va avoir la naissance d'un mouvement qui s'appelle le post-punk. Alors, je n'aime pas du tout cette appellation pour plusieurs raisons, simplement parce que je pense que définir quelque chose par ce qui vient avant, c'est pas très intéressant. C'est plus intéressant d'avoir des caractéristiques, en fait, du mouvement dans son nom. Et c'est ça qui va donner aussi la New Wave. Alors, qu'est-ce qui vont être les grandes caractéristiques du post-punk et de la New Wave, du coup? Eh bien, la New Wave qui a dominé les années 80, vous connaissez sans doute des groupes comme Eurythmics, par exemple, ou The Cure, sur lequel on aura l'occasion de revenir dans d'autres émissions, qui sont des mouvements emblématiques de la New Wave. Eh bien, la New Wave se caractérise par un retour à la simplicité, évidemment. Après les progressions d'accords extrêmement complexes, Les arrangements musicaux complètement fous qu'on va retrouver dans le rock progressif, on va retourner à quelque chose de beaucoup plus simple cette fois-ci, avec généralement des groupes beaucoup plus des groupes beaucoup plus restreints, excusez-moi, qui vont s'articuler autour d'un chanteur, d'un batteur, et d'un nouvel instrument aussi qui va ouvrir les possibilités. Au cours des années 70, on avait déjà l'émergence de ce genre d'instrument-là, les synthétiseurs. On pourrait citer le Moog, par exemple, qui est un synthétiseur assez connu des années 70. Mais les synthétiseurs, on va dire, à transistor, alors c'est assez drôle de dire ça sur cette radio, la synthèse FM, c'est un type particulier de synthèse de synthétiseur. Si un jour on fait des épisodes plus techniques, on pourra revenir dessus. Comme le Yamaha DX7, qui vont être des modèles emblématiques des années 80. Je veux dire, le riff de Sweet Dreams, par exemple, que vous connaissez tous, a été fait sur un DX7. Eh bien, ces nouveaux instruments vont permettre d'ouvrir les possibilités expressives et d'apporter tout un nouveau... une nouvelle dimension à la musique. Et cette dimension-là, elle se traduit par le fait qu'on est à désormais un rôle prédominant d'un claviériste qui joue du synthé dans les formations de rock. Et donc, dans la New Wave, il y a plusieurs divisions qu'on va dire. La branche principale, ça va être la New Wave britannique, que vous connaissez tous avec Evil It Makes, The Cure, etc. On va aussi avoir de la New Wave en France. Je citerai seulement le groupe Indochine, qui est le plus connu. Et une autre partie assez importante et que nous, ici en France, on connaît pas forcément, c'est la New Wave allemande. De la New Wave allemande, vous connaissez probablement le groupe Nena et Neun und Neunzig Luftballons, mais c'est beaucoup plus que ça en réalité. La New Wave allemande, c'est une scène assez dynamique, on va dire, au début, milieu des années 80 en Allemagne, que la New Wave, et c'est d'un groupe allemand, de New Wave allemande, dont on va parler aujourd'hui. Le groupe Fex. Et j'ai envie de commencer par juste vous faire écouter la chanson avant de commencer à vous parler de son histoire et de ce que ça peut raconter sur notre rapport à la nostalgie. Voici la chanson. Ce morceau est intéressant. Ça sonne vraiment typique des années 80. Je veux dire, on a la rythmique qui se répète avec cet enchaînement de quatre accords très typiques, si mineur, sol mineur, la majeur, ré majeur. Vraiment, on est sur du carré de chez carré. Ça bouge pas. C'est quelque chose de très basique, classique. Donc quelque chose qu'on retrouvera beaucoup dans tous les morceaux de la New Wave. On en reparlera bientôt. Vous en faites pas. Et on a donc ces progressions d'accords très typées, on a ces lignes de synthétiseurs avec ces synthétiseurs planants très très classiques aussi. Qu'est-ce qui va démarquer ce morceau et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est un morceau qu'on avait perdu et qu'on a cherché pendant des années et des années. Ceux qui ont un peu de culture internet et qui ont traîné sur les coins un peu obscurs des lost media et tout ça sur internet auront reconnu le morceau, puisque il est aussi connu comme The Most Mysterious Song on the Internet, la chanson la plus mystérieuse d'internet. Pourquoi? Dans les années 80, à la radio allemande, il y a une émission qui s'appelle Musique pour les jeunes, que je ne vais pas vous prononcer en allemand parce que mon niveau d'allemand est beaucoup trop bas depuis que j'ai quitté le lycée. Et dans cette émission, on va passer pas mal de groupes récents, de groupes de la scène locale. Et on va avoir un jeune adolescent qui s'appelle Darius, qui va enregistrer sur une cassette des morceaux de la radio qui passent. Des années plus tard, il va retomber sur cette cassette et il va décider de regarder tous ces morceaux et essayer de retrouver quels sont ces morceaux, puisqu'il n'avait pas enregistré l'annonce des groupes et du nom des personnes et du nom de la chanson, etc. Il va retrouver dans sa cassette tous les morceaux, sauf un, celui-ci, qu'il va appeler Blind the Wind, parce qu'il a du mal à... En plus, avec la distorsion de la cassette, il avait du mal à entendre le son. La version que je vous ai fait écouter, évidemment, est une version remasterisée, parce que depuis, on l'a retrouvée, vous vous en doutez bien, si je peux vous donner toutes ces informations. Donc, on cherche, il cherche, personne ne trouve, et la recherche se tasse là un peu. Puis c'est aux alentours de... C'est avec toute cette mouvance de nostalgie des années 80 qu'on va avoir sur Internet cette recherche de plein de vieux morceaux dont on a un enregistrement, mais on n'arrive pas à retrouver c'est quoi le morceau exactement, qui l'a fait, etc. Et on n'a pas d'enregistrement propre. Les gens aimeraient le retrouver, et ils ne retrouvent pas. Et ce qui est considéré à l'époque, comme à ce moment-là, comme le boss final, si vous voulez, des morceaux de musique difficiles à retrouver, c'est Blind the Wind, parce que personne n'arrive à le retrouver. Et alors, toute une recherche autour de ça. On va avoir pendant des années des différentes pistes qui vont se succéder, et personne ne va trouver. Et c'est en 2024 qu'après avoir épluché des archives de festivals de musique qui ont lieu dans les années 80, entre 82 et 84, que on va retrouver le nom d'un groupe qui s'appelle Fex, et d'un de ses membres, Michael Hedry. Et donc, les internautes ont essayé de contacter Michael Hedry et lui demander d'envoyer ce qu'il avait de morceaux du groupe Fex sous la main. C'était une des énièmes pistes qu'il y avait à l'époque, et parmi ces morceaux que Michael Hedry a envoyés, il y en avait un qui s'appelait Subways of Your Mind, et que je viens de vous faire écouter. Donc oui, on a retrouvé depuis ce morceau depuis 2024. Alors l'histoire est une success story, puisque depuis le groupe Fex, maintenant ce sont tous des sexagénaires, ils se sont rassemblés, ils ont réenregistré plusieurs morceaux, ils ont remasterisé, ils ont signé avec un label, ils ont sorti leur premier album, l'album qu'ils avaient préparé dans les années 80 qui n'avait jamais pu sortir parce que le groupe, faute de succès, s'était arrêté. Et récemment, ils ont sorti un clip sur la chanson Subways of Your Mind, la chanson la plus mystérieuse d'Internet. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler, tout simplement parce que ça nous donne... déjà une perspective assez intéressante sur à quoi ressemblaient les années 80 musicalement, c'est-à-dire beaucoup de petits groupes qui ont un succès très modéré et qui font des albums ou des démos sur cassette qui passent de main en main et qui sont jamais vraiment trouvés, qu'on a du mal à retrouver et retracer aujourd'hui. Et c'est aussi pour parler du rapport qu'on a avec la musique du passé et parler de la Lost Wave. La Lost Wave, c'est cette mouvance actuelle sur Internet dans laquelle on va rechercher des morceaux anciens, des morceaux vieux, et les vouloir déterrer, si vous voulez, c'est un peu de l'archéologie musicale des années 80, 70-80, et la période des années 80, où vraiment on a l'explosion avec la cassette de l'enregistrement indépendant, etc., va vraiment être le tournant un peu de la Lost Wave. Et Subways of Your Mind est intéressant parce que c'est aussi un bon morceau. En effet, c'est un morceau plutôt... entraînant, intéressant, etc., et dont l'analyse peut nous livrer plusieurs secrets, on peut dire, de la construction d'un morceau. Et oui, parce que je rappelle qu'ici, notre but, c'est de comprendre comment on fabrique des morceaux. Et pour ça, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait une reproduction de Subways of Your Mind tout seul dans mon coin sur un logiciel qui s'appelle Reaper, et donc on va pouvoir analyser ça en parallèle. Donc d'abord, écoutons le tout début de la chanson.
Thank you.
Cette intro entraînante, elle va enchaîner les quatre accords qui vont sous-tendre tout le reste du morceau. Et maintenant, la reproduction. Si on écoute juste cette introduction, voilà comment ça sonne dans ma reproduction qui... Ça n'est pas terrible, je vous l'avoue. J'ai utilisé des instruments gratuits pour le faire. Donc, je ne garantis pas, vraiment pas, que ça sonne bien. C'est parti. On va avoir d'ailleurs dans ce... Alors, juste sur ce passage-là, on enchaîne l'accord de si mineur, juste ici, par l'accord de sol majeur, puis l'accord de la majeur. Et ça, c'est un... ce mouvement-là qu'on venait d'entendre juste après de la majeur, c'est un mouvement très particulier. Je vous invite à chercher de votre côté, d'ailleurs, à chaque fois que je vous donne des pistes comme ça. C'est ce qu'on appelle un accord suspendu, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer simplement la do dièse mi, l'accord de la majeur, on va jouer la suspendue, la sus 4. Si on va jouer la ré mi, on va monter la tierce majeure sur la quarte, la ré mi. Et ça va donner un aspect où on n'est ni majeur ni mineur, et un aspect un peu aérien, suspendu, justement, c'est d'où le nom de l'accord. Et c'est cette qui va être caractéristique du riff. Si vous écoutez bien le riff en entier, on enchaîne en permanence. À la fin du riff, on tombe toujours sur ce motif-là. Sol majeur, La majeur, et là, c'est ça dans l'accord suspendu. Et là, on reprend avec cette petite ligne de synthé très caractéristique des années 80. J'ai utilisé le saxophone pour émuler une voix parce que j'ai quand même pas chanté. Donc, on a cet enchaînement d'accords qui donne cette introduction et qui va ensuite, si on enlève la voix, bon, c'est exactement la même suite d'accords qui enchaîne à travers tout le couplet. Vraiment, on reste sur quelque chose de très très simple, hein. On part du premier degré mineur, on descend sur le sixième degré majeur, puis on va sur le septième degré majeur, si sol la, et on alterne entre l'accord sus 4 et l'accord majeur classique. Ce qui est un mouvement tout à fait classique des années 80, vraiment. On est sur du classique, classique, classique. Et si vous écoutez bien, on a une ligne de synthé qui va juste sous-tendre les accords. Et pour refaire cette reproduction, j'ai utilisé des synthés, un synthé typique des années 80 qui s'appelle le synthé Juno 60. Alors, un Juno 60, c'est un instrument qui a été produit par Roland, une entreprise japonaise. C'est un synthé analogique, contrairement au synthétiseur FM. Et donc, voici juste la ligne de Roland. Vous pouvez vraiment entendre à quel point on est sur une répétition très simple, de motifs très simples. Ça sonne tellement années 80, c'est fou. Par-dessus ça, vous allez rajouter une batterie qui joue de manière très simple. Elle aussi. Hop. Et si vous remettez tout, ça va vous faire ça. Arrêtons un instant pour écouter la guitare particulièrement. Il y a deux guitares à l'intérieur d'ailleurs. La première guitare, elle va juste marquer le rythme. Ce rythme-là, là, avec des accentuations un peu particulières, où on va accentuer tous les... au bout de trois temps, puis trois temps, puis au bout de deux temps, ça, ce qui donne pa 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 pa. Aussi un rythme très très caractéristique des années 80, mais pas que. C'est ce qu'on appelle un tressilio. C'est un qu'on retrouve dans la musique du monde entier, en fait. Si vous écoutez par exemple le générique de Neon Genesis Evangelion, sorti en 1995, rien à voir, je sais, mais ce motif, ce rythmique-là, va revenir aussi. Donc c'est un motif qui est très très récurrent. Et donc là, on a la guitare rythmique qui va juste marquer les accords, et par-dessus, on va avoir la guitare solo qui va faire... ne va pas marquer des accords, mais va surtout avoir un rôle plus, disons, d'emphase et de puissance. Et qui va avoir une sorte de petite mélodie un peu. Nous envoie du coup sur notre couplet qu'on va réécouter dans la version originale. Et voilà, là on commence le refrain que j'ai envie de vous faire écouter d'abord sur Reaper, avant qu'on profite tous ensemble de la musique, de l'intégralité du truc. Donc, déjà, on va avoir un changement de tonalité et des changements de rythmique, puisque si on écoute uniquement la guitare... Et un changement de tonalité assez brutal, puisqu'on va passer rapidement sur mi mineur. C'est-à-dire qu'on va faire mi mineur, do majeur, la majeur, ré majeur, qui va... la majeur, si mineur, ce qui va nous ramener un peu dans le si mineur. Et cet accord de La majeur quand on est en Mi mineur, si vous avez suivi ce dont je parlais sur Echoes, normalement vous l'avez déjà entendu puisque c'est un mouvement très caractéristique qu'on retrouve chez Pink Floyd, c'est l'accord dorien, l'accord du mode dorien qui donne un côté plus brillant en fait à la tonalité mineure. La tonalité mineure toute seule est très très dark. Là ça va un petit peu rajouter de la lumière, écoutez bien. Cet accord dorien là qui ramène de la lumière. Qui, si on écoute tous ensemble, donne ceci. Qui nous permet en fait d'avoir un côté un peu, voilà, un peu plus épique sur le refrain. Autre particularité, ça va être ces sons-là, que j'ai essayé de reproduire du mieux que je pouvais avec les instruments virtuels que j'avais, mais qui c'est pas ça. Vous allez, quand on écoutera la version finale, vous, à la fin de cette émission, vous pourrez entendre c'est pas ça. On alterne entre le mi... une octave au-dessus, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Ce move-là, que vous avez du coup entendu ici au synthé, qui passe d'un synthé à l'autre, c'est un mouvement qui est possible d'utiliser tout simplement parce que entre tous les accords du refrain, là, il y a une seule note qui est en commun entre tous les accords, c'est l'accord de mi, ce qu'on appelle une note pédale, qui traverse tout le refrain. Et du coup, si on martèle cette note mi, qui est la note d'ailleurs de l'accord principal du refrain, puisqu'on est en mi mineur, eh bien cette note-là, mi mineur, ce mi de mi mineur, va ancrer la tonalité et donner un côté un peu épique à la chose, si vous voulez. Et donc, si on écoute tout ensemble, sur la version avec les voix, bien évidemment, voici ce que ça donne. Préparez-vous, voilà, le refrain arrive... maintenant. Et puis on repart directement sur un autre couplet. Avec des breaks de batterie qui sont vraiment typiques de cette époque-là. Morceau là, on est aux alentours de 83-84, le morceau est composé. C'est la même chose, on reprend le refrain exactement de la même manière, qui est plus épique, plus sombre, c'est un côté plus épique, sombre, avec cette descente mi, do, la, qui est assez caractéristique. Vraiment, on est sur du classique de chez classique pour la musique des années 80. Qu'est-ce qui me manque à vous dire là-dessus ? Oui, à la fin de la chanson, on va avoir... on va écouter la version originale, on va avoir une petite modification puisqu'on va revenir on va rester sur ce refrain là en fait, et on va étendre le refrain avec de toutes les manières possibles, c'est-à-dire que au lieu de garder la note pédale par exemple, on va la faire monter dans les aigus, je vous invite à bien écouter, et on va utiliser cette suite d'accords que je vous ai dit, mi mineur, do majeur, la majeur, ré majeur, si mineur. Normalement. Voilà, on a le refrain qui vient une dernière fois. Et puis là, on... Ré majeur, si mineur, mi mineur, do majeur, ré majeur, si mineur. Qui va donner avec cette ligne que vous avez entendue ici. Voilà, à partir d'ici. Avec cette montée en tension, progressif au synthé, on monte ce motif-là qu'on a déjà entendu. On monte dans l'aiguille et on tient cette note jusqu'à la fin du morceau. Écoutons donc ceci dans la version originale. Oui, au milieu de la chanson, on va avoir une reprise de l'intro pour mener directement au refrain. Pour le dernier refrain. Voilà, on est dans l'extension du... Vous entendez bien d'ailleurs cette montée progressive. Et maintenant ce solo de synthé. Il va conclure la chanson. Et on termine par un fade out, par un fondu vers le silence. Procédé très très classique aussi dans les années 80. Hein, beaucoup de chansons se terminent comme ça. Donc, en conclusion, après avoir écouté Subways of Your Mind de Fex, un morceau qui a été retrouvé et puis qui aujourd'hui a connu un succès qu'il n'avait pas eu à l'époque. C'est un morceau qui est vraiment très typique de l'époque dans laquelle il a été écrit. Et qui, du fait de son regain de popularité aujourd'hui, je pense, nous en dit beaucoup sur notre rapport aux années 80, notre fascination musicale pour les années 80 notamment. Puisque c'est une des figures de proue du mouvement de la Lost Wave. C'est pourquoi je vous invite à vous replonger dans les années 80 et puis à faire un tour sur le Reddit Lost Wave pour écouter ces morceaux qui ont été parfois oubliés, qui peut-être un jour seront retrouvés. Je vous remercie et à la prochaine.